Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le tremplin de ce 16 juillet 2013 avec Robert, qui est l'animateur de cette émission, et Jean-Pierre à la technique, pour évoquer dans cette émission le Festival d'Avignon 2013, enfin, le Festival d'Avignon depuis ses débuts jusqu'à 2013, à travers un certain nombre de réflexions autour de différents thèmes, comme vous allez le voir, concernant ce festival. En ouverture de l'émission, vous avez entendu les musiques de scène pour le TNP écrites par Maurice Jarre, qui ont été aussi utilisées pour ouvrir, avec des enregistrements en général, pour ouvrir les spectacles du Festival officiel d'Avignon. Voilà, eh bien écoute, Robert, allons-y pour une heure de présentation, de discussion et quelques illustrations musicales autour de cet événement théâtral. On a envie de dire incommensurable, puisqu'on devrait être à 1300 troupes, je crois, cette année, dans un si petit espace, qu'est le Festival de théâtre d'Avignon.
Oui, on va essayer de pratiquer l'errance, qui est un thème qui peut plaire à beaucoup, parce que l'errance, c'est aussi la possibilité de se donner du temps pour la culture et faire que la culture, c'est un peu ce qui est essentiel dans la vie. On ne comprendrait pas, on ne pourrait pas donner de vrai sens à la vie s'il n'y avait pas l'aspect culturel. Alors, derrière le mot culture, on peut mettre beaucoup de choses, y compris des choses affreuses, comme le faisait Goebbels, qui disait que j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. Donc, la culture en Avignon, on abordera un peu cette errance sur les terres avignonaises sous l'angle de l'histoire des festivals. Et puis on la poursuivra ensuite avec l'aspect de ce qui pour nous était le plus important, c'était le off. Donc on aura au préalable parlé de l'intrusion du off d'ailleurs, qui sera aussi appuyée par un entretien que Jean-Pierre a retrouvé, un entretien avec André Benedetto du Théâtre des Carmes, enfin, l'un des fondateurs et non des moindres de ce festival, on va dire, alternatif. Ils auraient pu l'appeler, peut-être qu'à l'époque ils l'auraient appelé alternatif, parce que le mot alternatif était sans doute moins utilisé pour exprimer autre chose qu'il ne l'est aujourd'hui, et donc il l'avait donc appelé off. Et puis c'est un lieu d'économie, puisque finalement on sait que les commerçants n'aimeraient pas qu'on leur supprime tout cet assemblage qui amène des centaines de milliers de personnes à Avignon. Donc les commerçants, les artisans, ils retrouvent leur compte. Et donc économie et sociale, parce que à travers ce comportement des êtres, il y a effectivement des relations sociales souvent très difficile, et il en est une notamment très 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 épineuse, voire dans certains cas intolérable, c'est la situation des intermittents très nombreux en cette période festivalière. Alors, pas qu'à Avignon qu'il y a des festivals, mais comme on le dit, les festivals d'Avignon, le HOF notamment, c'est le plus grand festival du monde de ce sorte de théâtre polyphonique à multiples faces. On en connaît un autre, je crois que c'est Liverpool en Angleterre qui fait quelque chose de très très important. Voilà, pour un peu situer. Et puis, on parlera aussi des autres lieux qui sont non pas des appendices, mais ni des annexes de ces deux festivals, mais qui sont en même temps la mémoire, l'histoire et puis l'image. On parlera ainsi donc, par exemple, de la maison Jean Villard. Et puis on terminera par une balade, celle des festivaliers, alors qui s'entrechoquent en ce moment sans cri ni douleur apparemment, dans des conditions des fois. Il y a des festivaliers pauvres, très pauvres, il y en a qui sont riches, très riches. Et puis tout ça, et ben ma foi, et ça se croise, ça s'entrecroise, et ça vit ces deux mois de ce mois, puisque les festivals d'Avignon couvrent, on va dire, 25, du 5 au 25 pour le festival principal, et puis l'autre qui n'est pas secondaire, mais le OFF, commence quelques jours plus tard, et, c'est-à-dire a commencé le 8 et se terminera à la fin du mois. On voulait rappeler un peu cette histoire phénoménale. Quelle culture à la sortie de la guerre, où effectivement les forces progressistes, dans tous les plans, dans tous les domaines. D'ailleurs, je voulais rechercher, mais je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que dans le document du Conseil national de la Résistance, on doit sûrement trouver quelque chose qui s'applique à la culture, mais c'est sûrement en termes très généraux, et surtout, naturellement, il n'était pas écrit que Avignon allait être le pôle central d'une des renaissances culturelles importantes. Donc, rappel historique, la guerre, et puis voilà, des personnages sortis de la Résistance. Par exemple, on sait par exemple que René Char a été l'un des éléments également moteurs de la mise, de la création du festival, ce qui était en fait le premier théâtre populaire à Avignon, en 1947, et qui a à sa tête, dès lors, Jean Villard, l'homme qui mènera à bien cette entreprise de voir s'il était possible d'amener, ou plutôt pas amener, c'est pas, on n'amène pas, enfin amener la culture, mais surtout faire que les citoyens partout, et surtout les classes qui n'ont pas trouvé un violon ou un piano dans leur berceau, puissent entrer de plein pied dans la culture, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit la sculpture et d'autres. Bon, Avignon, c'était le théâtre. Et puis il fallait trouver un lieu, donc il y a eu cette cour du Palais des Papes qui s'est peu à peu imposée. C'était pas évident au départ, la cour du Palais des Papes, qui n'était pas un lieu formidable. Le phonétiquement, c'était pas terrible, tout ça. Bon, néanmoins, ça a été retenu et peu à peu, c'est construit donc le festival d'Avignon. Ce festival qui aujourd'hui, à travers à peu près 60 programmes à chaque édition, rassemble à peu près 120 000 personnes qui ont payé un abonnement, qui ont payé des entrées, 120 000 personnes, voilà. Et puis, dans les années 60, milieu des années 60, eh bien, avant que 68 n'éclate, La contestation était aussi présente à Avignon, elle était notamment dans le domaine culturel, elle était fortement ancrée sur les défenseurs par rapport à Paris, peut-être d'une volonté occitane, mais occitane, ça n'était pas une conception nationaliste, c'était une conception émancipatrice et dans beaucoup de cas, alternative, c'est-à-dire un lieu d'où pouvait peut-être émerger une prolongation de tout ce que le Conseil national de la Résistance avait inclus dans son programme et qui pouvait mener à une société différente. Donc, naît au milieu des années 60 une contestation De Jean Villard et puis de ses premières années de festival officiel qui n'était pas du tout conservateur dans son programme ni encore moins réactionnaire, qui était progressiste mais qui sans doute effectivement n'était pas porteur d'une révolution. Et on se rappelle qu'à partir des années 65 jusqu'aux années 75, eh bien, l'idée révolutionnaire était très forte en France, et notamment dans le sud de la France, et notamment à Avignon, à l'occasion de cette manifestation culturelle théâtrale. Ainsi est né le HOF, alors avec des hommes qui, au départ, et d'ailleurs on l'entendra tout à l'heure, avec au départ des hommes de culture alternative qui faisaient déjà connaître des discours sur ce que se profilait déjà la reconstruction de systèmes capitalistes qui existaient avant-guerre. C'était pas le même que celui d'aujourd'hui, mais qui existait déjà. Il y avait donc André Benedetto, ancien instituteur, grand pédagogue, et qui écrivait déjà des textes, bon, des textes qui restaient assez... de la poésie, et qui s'est retrouvé avec notamment un homme d'action, un grand organisateur, un libertaire, un anarque, qui était très très discret, très très effacé, et qui à qui l'on doit beaucoup dans le succès du HOF, c'est Alain Léonard qui était donc de cette équipe, et puis d'autres, Gérard Gélas, ça c'est la première équipe de cette contestation. Et puis fallait se donner un nom. Et puis le mot HOF est apparu assez naturellement. Il y avait les autres, il y avait le festival officiel en plus, parrainé par Paris, par les grands partis, toute la gauche progressiste et tout ça. Et puis donc, pour aller plus loin, il y avait donc ces HOF. Du coup, le festival d'Avignon... Pour les médias notamment, parce que lui, il ne revendique pas ça, mais il fallait lui donner un nom. Qu'est-ce qu'on peut opposer au HOF ? On peut opposer le HIN. C'est comme ça que le festival officiel d'Avignon est devenu le HIN. On dit maintenant, ah, le HIN, le HOF. Alors bon, on en parlera plus loin, c'est très intéressant, parce qu'il y a une certaine dialectique entre les deux, avec aussi des liens de passage, notamment grâce à l'informatique. Et le HOF, eh bien, aujourd'hui, c'est une énorme masse de programmes, 1200 pièces, petites pièces souvent, parce que les conditions techniques l'obligent, et puis les coûts de présence à Avignon sont quand même très 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 importantes. 1200 programmes, une moyenne de 50 à 110, 120 minutes pour les plus longues, par 1000 compagnies. Ceci, 1200 programmes par 1000 compagnies, on va dire, mais finalement, ça ne fait pas beaucoup comme ratio. Mais une compagnie dans le HOF, c'est une personne. Vous et moi, si nous avons du culot, si nous pensons que nous avons du talent, eh bien, et puis un petit peu d'argent, où on essaye de se faire financer par des collectivités territoriales. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on peut tenter sa chance, si c'est une chance, ou aller faire un tour, perdre de l'argent, mais peut-être en sortir grandi, appauvri financièrement, mais grandi sur l'expression de soi-même. Et c'est sans doute beaucoup la raison pour laquelle tant de gens vont à Avignon au cours de ce mois de juillet. En termes de spectateurs, c'est à peu près 600-700 000 spectateurs, donc spectatrices, qui sont dans ces petites salles du HOF. Voilà, c'est peut-être C'est quelques chiffres qu'on voudrait pas pénibles à digérer, mais qui sont quand même indicatifs. Alors simplement un petit détail sur les 1200, les 1000, puisque le millier de compagnies. Alors évidemment, il y a les gros bastions. Alors c'est le gros bastion, c'est l'Île-de-France, 400. Et puis c'est PACA, donc la région la plus proche d'Avignon, avec 200. Et puis Rhône-Alpes, finalement, arrive avec 100 compagnies présentes sur place. Ça fait 700. 700 sur 1000, ça veut dire que pratiquement les deux tiers sont occupés par les grandes compagnies. Les grandes régions, puisqu'on le répète, souvent les régions participent fortement avec les conseils généraux, avec les DRAG et puis toutes sortes de petites structures. Certes, on en parlera plus tard, mais c'est devenu très difficile parce que les fonds sont de plus en plus réduits. On va peut-être marquer là un petit temps d'arrêt. Oui. Oui.
Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin, ils lui font signe. Ils ont des poires, des carrettes, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Suivent en rêvant. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins.
Apollinaire pour les paroles, Louis Bessière pour la musique, l'interprétation de Jacques Douet des Saltimbanques, un poème donc mis en musique évoquant les artistes, comme vous l'avez bien entendu reconnu.
Alors Apollinaire, beaucoup de ces jeunes gens, parce que je fais une parenthèse, les gens qui composent ces centaines de compagnies sont souvent jeunes. Et paradoxalement, leur public est, lui, beaucoup plus vieux. Il y a une statistique qui est faite montrant que c'est autour de 30 ans. Mais c'est vrai que pour se lancer dans une opération de cette nature, il faut quand même encore être relativement jeune. Enfin, il faut être jeune pour y croire, quoi. Mais par contre, le public, lui, c'est le public qui est encore un peu d'avant. Hein. Celui, bon, il a naturellement vieilli. Il s'est un peu reproduit, mais c'est quand même des gens qui pour lesquels le off, c'était une image forte. Bon, on ne sait pas aujourd'hui si c'est toujours le cas, mais semble-t-il, ça on explique cette différence entre la composition en âge des acteurs, artistes, comédiens et le public qui viennent les voir. Un dernier mot sur le HIN pour simplement rappeler que l'équipe qui dirige le HIN, c'est-à-dire Hortense Archambault et Vincent Baudrier, en une situation de co-direction. Il n'y a pas un premier, un deuxième, ni bon, c'est des co-directeurs. Et ça a tenu, ça a marché 10 ans, et visiblement, aucun des deux n'a pris l'ascendant sur l'autre, et ça a été formidable de ce point de vue-là. Donc pour eux, c'est fini, on sait déjà qu'ils vont se retrouver à la tête de théâtre prestigieux, pas forcément en France. Et qui va leur succéder? Eh bien, à partir de l'édition de 2014, ce sera Olivier Py, que les amateurs de théâtre, amatrices de théâtre de Lyon connaissent, parce qu'il a été à Lyon, notamment au Point du Jour. Et Olivier Py, donc, qui était jusqu'à peu à l'Odéon, qui en a été chassé par Mitterrand, Frédéric, parce que Frédéric Mitterrand, oui, a voulu y mettre Luc Bondy à sa place, pensant qu'il ferait mieux un théâtre européen. Bon, ça. Et du coup, devant la protestation générale, eh bien, Mitterrand avait décidé, eh bien, Olivier, je te propose Avignon. Et puis, ben, ça a surpris tout le monde, y compris naturellement Archambault et Baudrier, qui ne s'y attendaient pas forcément. Voilà, donc Olivier Py va s'occuper de ça, s'occuper de ce festival HIN. Ça sera forcément quelque chose de très différent, parce que Olivier Py, c'est un homme de théâtre, c'est un auteur, c'est un comédien, c'est un metteur en scène, il a la triple qualité. Alors que les autres, ils sont avérés de bons recruteurs de troupes, et puis ils se faisaient souvent associer. Comme si c'était nécessaire, ils avaient des associés, Baudrier et Archambault, qui eux étaient des hommes et des femmes de théâtre. Et là, Olivier Py, il n'a pas besoin d'associer, parce qu'à lui tout seul, il est tout. Olivier Py donc va prendre les rênes. Alors c'est un personnage, on dit atypique quand on ne sait pas trop comment le définir, mais c'est un type original qui a beaucoup de qui va sans doute apporter beaucoup à Avignon. D'ailleurs, alors cette année, on peut le voir dans une prestation qu'il a déjà présentée ailleurs, mais il sera dans le off la semaine prochaine. D'ailleurs, je crois que ça commence à la fin de cette semaine, dans une pièce qui s'appelle Miss Kneif. C'est un rôle d'ailleurs très, très, un peu dans sa nature, c'est-à-dire c'est assez, certains disent, sulfureux. Bon, c'est bien, parce que ça fait interroger, ça fait bouger. Je reviens donc, je vais vers le off. Alors, on a toujours la question, on dit, alors, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Oui, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a 1200 pièces, on se gratte la tête, qu'est-ce qu'on peut avoir vu là-dedans? Alors, on entendra d'ailleurs, juste après, on entendra André Benedetto à sa manière répondre à cette question. Alors, je vais simplement donner un coup de... Un clin d'œil à un homme de théâtre de Lyon, créateur, c'est l'homme du Théâtre des Ateliers, ici à Lyon, et qui a fait un petit tour du côté du Hof d'Avignon. Je ne crois pas qu'il y soit beaucoup allé, mais je ne le certifierai pas. Et qu'est-ce qu'il présentait à Avignon? Il présentait une pièce que déjà on peut-être vu ici ou qu'ils le verront prochainement à la rentrée. C'est Alexandre le Grand, le Tigre bleu de l'Euphrate, à partir d'une pièce écrite il y a quelques années par Laurent Godet. Laurent Godet qui vient d'ailleurs de rééditer son exploit sur Alexandre Dumas en écrivant une très magnifique livre, magnifique roman, roman d'histoire en même temps, et que qu'on conseille à la lecture. Et cette pièce que Gilles Chavassieux du Théâtre de l'Atelier a mis en scène, eh bien, est interprétée par deux comédiens. Un comédien, d'ailleurs, qui d'une certaine manière est assez lyonnais, mais après tout, c'est pas d'une très grande importance. Parce qu'il est passé par l'ENSAT, et puis aujourd'hui, bah, l'ENSAT, c'est une référence aussi, et puis il a fait une belle carrière, hein, il n'en est pas à ses débuts. Et à ses côtés, il y a Yiping Yang. Yiping Yang est une percussionniste de l'Orchestre de Lyon. Alors c'est formidable, elle a plein de petites choses avec lesquelles elle accompagne Yannick Laurent, qui est donc le comédien récitatif, hein, parce que c'est plus un récit qu'il développe en continu pendant 50, 60 minutes à peu près, une bonne heure, quoi. Voilà. C'est une belle réussite de Gilles Chavassieux. D'ailleurs, cette pièce, je l'ai vue il y a deux jours, et puis ben, c'est un après-midi, la salle était pleine. Alors c'est vrai que Laurent Godet, c'est un peu le problème, hein, d'Avignon, mais c'est le problème partout. Dès qu'il y a un peu des figures emblématiques qui ont été vues à la télé ou dans les émissions culturelles, que ce soit, ou même dans les émissions de variété, parce que maintenant on voit des gens des variétés qui s'introduisent dans le off. Ça fait un peu problème. Alors, eux, ils disent, mais non, c'est justement, c'est pour faire que le off, qu'il n'y ait pas un fossé, qu'il n'y aurait pas d'un côté les grands professionnels, et qui, quand ils sont appelés, sont dans le in, et puis les autres, eh ben, ma foi, ils vont dans le off. Eux, ils ont franchi le Rubicon, et ils y vont. Certains, effectivement, ont d'autres motivations que cette motivation très, très, très salutaire. Voilà, donc, cette pièce de Gilles, mise en scène par Gilles Chavassieux, ben, c'est un peu l'image de beaucoup de ces pièces venues des quatre coins de France et puis de l'Europe, puisque sur les 1200 pièces, 10% sont des participations étrangères, hors hexagone. Donc c'est effectivement une autre manière de... Le deuxième point qui va nous emmener ensuite à donner la parole à André Benedetto, c'est effectivement cette grande expérience du théâtre des Carmes à partir de ce que fut l'œuvre d'André Benedetto. Je l'ai dit, écrivain dont on espère qu'un jour, bon, décédé un peu prématurément, même plus que prématurément, même s'il avait 70 ans, le 13 juillet 2009, décédé brutalement, il était en pleine forme encore, 13 juillet 2009, ça a été un choc énorme pour tout le petit monde et le grand monde du théâtre, parce que tout le monde s'associait, tellement avait compris que André Benedetto, les festivals d'Avignon, c'était André Benedetto notamment. André Benedetto, d'ailleurs, petite parenthèse, qui dans son testament avait demandé que ses cendres soient dispersées sur le Ventoux. Et justement, il y a trois jours, le 13 juillet, c'était la quatrième année donc, de son décès, et un petit hommage lui était rendu. Et en même temps, il se trouvait que hier, eh ben, le Tour de France cycliste, eh ben, grimpait le Ventoux. Bon, c'est tout le monde à Avignon a trouvé ça drôle, mais c'est sans autre procès d'intention. Donc, il y a eu un texte de Benedetto, Memento Occitan, dont une partie donc est déclinée en occitan. Alors certains diraient que c'était un texte très très nationaliste. À l'époque, c'était cette Occitanie qui voulait être, je l'ai dit tout à l'heure, une alternative, aider à l'alternative ou plutôt à la prolonger tout ce que le Conseil national de la Résistance et puis d'autres structures progressistes avaient mis en place. Et c'est Philippe Courbert, accompagné d'un guitariste, Jérémy Campagne, qui a, avec la force de Philippe Courbert, récité ce texte. C'était un grand moment, qui était un hommage à Benedetto. Et au-delà, c'était un hommage à toute une œuvre d'André Benedetto, dont on espère qu'un jour, beaucoup de gens espèrent qu'il trouvera sa place. C'est beaucoup de poésie, beaucoup de pièces, des pièces très bien. Et parmi les pièces en ce moment au Théâtre des Carmes, il y a Thermidor Terminus. Thermidor Terminus, c'est à propos de la mort de Robespierre. Et je crois que c'est une pièce également au Théâtre des Carmes qui va être très 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 apprécié. On va peut-être écouter maintenant André Benedetto. C'est un enregistrement de 2000, combien tu m'avais dit, Jean-Pierre?
2001, enregistrement du 13 juillet 2001 en Avignon devant.
Et un 13 juillet déjà, hein, c'est drôle, oui.
Monsieur Benedetto, bonjour. Je vous remercie d'accepter cet entretien pour Radio Canu. Je ne sais pas si vous avez une image de Radio Canu, petite radio associative lyonnaise qui a 25 ans d'existence.
C'est le grand, alors.
Oui, on peut considérer les choses comme ça, effectivement, suivant le critère qu'on prend par rapport à pas mal d'autres radios dites libres. On est tendance à te considérer comme une grande. L'occasion de vous rencontrer donc au Festival d'Avignon va nous permettre, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas très bien votre travail depuis pas mal d'années, surtout les plus jeunes, peut-être de faire un rapide historique. Je crois que vous êtes installé là depuis une bonne trentaine d'années.
C'est ça, un peu plus, même, oui.
Plus,
même. Ouais, depuis 63.
63, voilà. Et vous êtes à l'initiative, avec d'autres, du Festival OFF qui aujourd'hui a pris une ampleur.
Oui, le Festival OFF.
Ouais, par rapport au WIN.
Hein. Ben, c'est-à-dire que nous, en 66, on a décidé de jouer, puisqu'on avait envie de jouer. Et puis, on a été les seuls à jouer hors festival. L'année d'après, comme on avait fait sauter un verrou en quelque sorte, d'autres sont venus et c'est là qu'a commencé donc le OFF. Voilà. Mais personnellement, je n'ai pas voulu tenir à créer le OFF. Hein.
Oui,
on voulait jouer et puis c'est tout. Voilà. On s'est trouvé à l'initiative sans avoir décidé de faire des petits. Quoi.
Ouais. Et quelle vision vous avez aujourd'hui, 38 ans après, de ce qu'est devenu ce Festival OFF?
Ben, c'est devenu une chose énorme. Hein. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc, on était 37 ans, en 66, 34, 35 ans. Il y a 35 ans, on a été en 67, 34. Il y avait une vingtaine d'années, il y avait 90 spectacles. Maintenant, il y en a plus de 500, on est 600. Je crois qu'à la limite, plus personne ne sait combien de spectacles, exactement. Alors, c'est une énorme chose, hein, qui vient s'ajouter au WIN, qui lui aussi a de plus en plus de spectacles, hein, parce que le WIN a mimé le OFF, c'est-à-dire le WIN a de plus en plus de spectacles à d'autres heures que le soir, à plein d'activités, et récupère finalement ce qui gêne le OFF, récupère beaucoup la presse, hein, mobilise toute la presse, quoi, tout le jour. Alors, le WIN a donc 50 spectacles environ, hein, le OFF a d'énormes spectacles. Le problème, il est simplement pour les spectateurs, à savoir que les gens qui arrivent pour voir des spectacles, ça doit être très douloureux de choisir, hein, à travers cette masse de spectacles. Ceci dit, cette masse de spectacles, elle est ce qu'elle est. Elle est composée de quantités de choses très diverses les unes des autres. Alors il y a des couloirs, hein, il y a le café-théâtre, il y a des jeunes troupes qui montent des pièces du classique ancien, du classique moderne, qui visitent des textes anciens ou modernes qui n'ont pas été faits pour le théâtre mais qui deviennent du théâtre. Enfin, il y a une immense diversité, une très très grande richesse.
Et personnellement, vous vous en félicitez?
Moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de directive à prendre. Moi, ça ne me vient pas à l'idée de dire il faut les supprimer ça ou supprimer ça. Je veux dire, on est sous le règne de la libre entreprise, de la liberté d'opinion. Dans le monde de l'art, il est extrêmement difficile de dire toi, tu es un artiste, toi, tu n'en es pas un. Hein, et qui va prendre la décision, même le ministère hésiterait à prendre la décision en fonction des licences d'entrepreneur en spectacle, par exemple. Parce que si bien un mec complètement inconnu débarque à Avignon, monte un spectacle et a du succès, et est reconnu par le public, et sans avoir aucun titre et quoi que ce soit, c'est le monde de l'art. Alors ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais c'est comme ça. Donc moi je ne vais pas décider, moi de mon côté je ne vais pas dire il faudrait que ceci, il faudrait que cela.
Hein? On n'avait jamais aspiré à entrer dans le IN.
Je ne sais pas qu'on aspire ou pas, on a été dans le IN. À plusieurs reprises, oui. L'année passée, on était dans le IN. Ça dépend un peu des années, ça dépend des circonstances, ça dépend des hommes, ça dépend, voilà. Mais comment dire, c'est évidemment quelques troupes à l'Avignon, les troupes permanentes d'Avignon sont dans un statut un peu curieux, à savoir que les troupes qui sont permanentes, qui jouent toute l'année, se retrouvent dans le off l'été. C'est un peu bizarre. Hein, elles assurent le IN toute l'année et l'été, elles sont dans le off. Bon, mais ceci dit, on ne peut pas non plus obliger un directeur de festival à prendre automatiquement des spectacles dans son festival, puisqu'il a il a le choix. Son travail, c'est de faire le tri. Donc on ne peut pas lui imposer un choix. Voilà.
Économie et culture, est-ce que ça va bien ensemble? Alors, on évoque beaucoup, avec un peu, quelquefois beaucoup d'amertume, les promesses de François Hollande l'année dernière, dans sa campagne, mais aussi dans le programme, en disant qu'il s'agissait de promouvoir l'éducation artistique, par deux manières, transmission des savoirs et par démocratisation de la culture. Bon, démocratisation de la culture, et Jean Villard y pensait déjà, et puis bon, il a fait ce qu'il a pu, c'est pas sûr qu'il ait réussi, mais il avait essayé de faire quelque chose, dans une époque où c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Et alors, donc, on discute ferme à Avignon de cette situation. Alors, les gens du off ont l'habitude des difficultés qui sont les leurs, hein, souvent, bon, entre le bénévolat, les 4 sous qu'ils peuvent ramasser ici et là auprès des collectivités territoriales ou d'autres formes de financement, et puis ils y mettaient 4 sous à eux, je l'ai dit tout à l'heure, et ils quittaient Avignon plus pauvres financièrement, mais la plupart vous diront quand même plus riches intellectuellement, plus riches de quelque chose en eux qui était fort. Et tout le monde a évoqué, et naturellement on évoque le budget de Filippetti, d'Aurélie Filippetti, qui est la ministre de la Culture, moins 2% cette année, moins 4,3% l'année dernière, donc quand même, ça fait quand même des sous en moins. Alors évidemment, c'est pas forcément directement le off qui va s'en sentir concerné, compte tenu que c'est pas lui qui consomme le budget de l'État dans ce domaine. Mais par répercussion, ils savent que c'est l'austérité culturelle qui se profile quand même. Il y a la bataille à travers ça, il y a la bataille des intermittents. Les intermittents, eh bien, sont tous ces gens, alors avec des statuts très différents. Certains d'ailleurs pensent que, et d'ailleurs les syndicats le pensent aussi, qu'il faut faire un peu une mise en ordre dans ce système des intermittents, parce qu'il y en a qui sont des intermittents riches, et puis il y a des intermittents très pauvres. Et ça va riche et pauvre, parce que simplement, ils s'indemnisaient d'une manière très différente les uns des autres, avec des écarts assez énormes. Et samedi dernier, on était donc le 11 ou le 12, une manifestation, tous les ans, il y a une manifestation des intermittents, qui ont réclamé le retour à la possibilité d'étaler sur 12 mois la nécessité pour avoir droit aux indemnités remplir le quota de 507 heures. Il y a quelques années, et avec l'accord des syndicats, pas tous, pas de la CGT, mais de la CFDT et puis de quelques autres syndicats, le délai qui leur était donné pour faire ces 507 heures, c'était 10 mois. Alors, 10 mois, évidemment, c'était beaucoup plus difficile parce que il fallait trouver. Là, il y a une demande pour retour aux 12 mois. Philippe Petit a dit « Oui, je suis assez d'accord, mais c'est pas moi qui décide. Il y aura à l'automne une négociation entre le patronat et les syndicats sur cette question. Bon, je vous donne mon point de vue, mais c'est pas moi qui vais prendre la décision. » Alors donc, compte tenu de ce que l'on sait des positions du MEDEF, des rapports de force et du nouveau patron, d'ailleurs, qui l'a dit d'ailleurs, le nouveau patron du MEDEF, Gattaz, fils de son père, et pas mieux que son père, finalement a dit non, pas question de revenir aux 12 mois. Voilà où on en est. On rappellera que c'est ces termes effectivement qui font mal parce que Hollande avait dit aussi qu'il s'agissait de sanctuariser le budget de la culture. C'est des mots forts quand même, hein, avec d'autres domaines, mais dont la culture. Voilà, donc c'est aujourd'hui, tout ça c'est tombé à l'eau. Voilà pour cette sur le plan, avoir ce qu'on peut dire aussi. Alors bon, on va dire pour amuser peut-être la galerie de tous ces gens qui voudraient faire aboutir leur programme, leur projet d'artistes professionnels dans le off, on a créé une maison professionnelle du syndicat vivant. Bon, alors les syndicats viennent, apportent ce qu'ils proposent. Alors il y a des divergences fortes, parce que d'un côté on a pratiquement la CGT qui a un quasi-monopole, qui ça veut pas dire forcément que tout ce qu'elle fait c'est mauvais, loin de là. Mais qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une intersyndicale qui fonctionne, qui permettrait effectivement d'être efficace sur tous ces plans-là. Voilà, donc des débats, des inquiétudes pour l'année prochaine. Mais comme me le disaient certains de ces gens du off, ils me disaient, mais on a l'habitude, peut-être qu'on ne pourra plus. Mais c'est pas nouveau, mais il me disait, moi j'aime prendre des textes, les déclamer, les voir avec d'autres copains comment on s'organise, et puis voilà, ben, cet esprit-là va continuer.
Chanson du capitalisme. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un gros citron. C'est le propre du grand homme de pressurer les petits citrons. Le citron du petit homme fait la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure et jacque comme un poltron.
Bertolt Brecht pour les paroles, Kurt Weill pour la musique, bien sûr, c'était Pauline Julien qui interprétait la chanson du capitalisme.
Bon, voilà, je crois que les choses sont bien mises en perspective. On va dire, le capitalisme est pour quelque chose, dans l'austérité, y compris dans la culture, à Avignon. Surtout ce type de capitalisme sauvage fait de privatisation en tout genre. Et surtout, les régions, les conseils d'administration, les conseils généraux et d'autres structures qui se voient contraintes, disent-elles, de réduire leur budget. Mais elles n'ont pas fait de promesses à la Hollande sur l'intangibilité du budget de la culture. Alors, il y a entre ces deux lieux de festival, qui est donc le festival, on va dire, de Jean Villard, pour simplifier les choses. Et puis moi, je dirais carrément le festival d'André Benedetto. Eh bien, il y a des lieux de mémoire et il y a des lieux d'image. C'est la maison Jean Villard. Alors, maison Jean Villard, c'est fabuleux. Alors, c'est surtout lié au festival Jean Villard, comme le nom l'indique. Mais finalement, on comprend très bien comment, effectivement, aussi, il y a cette intrusion de ce grand mouvement du off qui apparaît comme un apport indispensable. Et d'ailleurs, le in sans le off, eh bien, on n'est même pas sûr qu'il pourrait durer. Alors que l'inverse est sans doute différent. Le off peut durer même si le in disparaissait. C'est assez le paradoxe. Il y a aussi d'autres lieux. Il y a l'université d'Avignon et les pays du Vaucluse. Alors là, c'est mêlé aussi avec. On voit apparaître, par exemple, appuyant le festival off, on voit les médias comme Mediapart, comme Marianne, comme même Libération, c'est pas la première fois. Alors bon, ils s'y intéressent. Alors ils s'y intéressent. Ils organisent des débats et ces débats se font à l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse. Et puis enfin le cinéma Utopia. Alors ça aussi, je crois que toutes celles qui vont en Avignon. Des fois font une pause au cinéma parce que le cinéma est aussi dans cette période-là complètement branché sur les programmes et pas seulement sur les programmes du festival IN, mais aussi avec beaucoup d'apports, et y compris par des débats avec des cinéastes qui font le déplacement. Il y a d'autres lieux comme ça qui font que c'est une espèce c'est un ensemble que certains trouveraient inextricable qui se déroule en Avignon pendant ces 3 ou 4 semaines on a l'impression que ça ne pourrait pas exister les uns sans les autres. Alors, on trouve aussi les radios. Alors, elles sont toutes là à tour de rôle. France Culture, France Musique, France Inter, les télévisions, télévision 2, 3, et les programmes de la chaîne O. Et puis voilà, c'est tout ça. Et tout ça avec des lectures par des grands comédiens dans des lieux qui sont des lieux où l'accès est gratuit, comme par exemple la cour du musée Calvet, où on vient décliner des textes d'auteurs qui sont des fois dans les théâtres, mais qui n'y sont pas forcément. Voilà, c'est cette partie tout à fait extraordinaire d'Avignon, cette période.
Vous avez peut-être connu les chœurs, l'orchestre du Magic Circus et Jérôme Savary dans 20 ans d'aventure et d'amour. Je ne sais pas si Jérôme Savary a souvent été au Festival d'Avignon, peut-être, sûrement même. En tous les cas, il est décédé cette année au mois de mars, donc c'est peut-être une manière aussi de lui rendre hommage à cet homme du spectacle que de vous faire écouter cet extrait.
On va terminer notre errance un peu trop rapide. Sur les rues et dans les rues, parfois à l'ombre, souvent au soleil, avec des coups de chaleur à 35 degrés. Mais tout est climatisé, alors on peut dire beaucoup de mal de la clim. Ça consomme beaucoup d'énergie, la clim, mais comment faire autrement? Bon, c'est pas le sujet. Cette errance, eh bien, on va dire qu'on parlait un peu de l'élargissement des lieux de théâtre à tout cet accompagnement à travers la maison Jean Villard, à travers les débats, notamment ceux qui se déroulent à l'université d'Avignon, et puis les débats et les films au cinéma, Cinéma Utopia. Et il y a aussi on va dire l'éparpillement. Bon, on n'a pas parlé de tout ce qui se fait à l'extérieur d'Avignon, mais on va parler plutôt des lieux où peuvent se retrouver en masse des gens qui soit ne pouvaient par exemple pas être dans des hôtels, ne pouvaient pas être parce que ça coûte cher et puis qu'il n'y en a pas des masses, et puis quand tant de monde arrive là-bas, c'est pas possible de loger tous et toutes. Alors il y a deux points qui sont les grands atouts d'Avignon, on le sait, ce sont les deux îles, il y en a d'autres plus loin, enfin l'île Pio et puis l'île de la Barthelasse. Alors il y a à la fois un peu de spectacle de compagnie sur ces deux îles, mais surtout par exemple sur l'île de la Barthelasse, avec des bordures de Rhône, des deux Rhônes, eh bien on a des lieux pour que les gens, les jeunes et les moins jeunes, installent leurs voitures, leurs caravanes, leurs tentes, sortent simplement le matelas pour le lit de camp ou le sac de couchage pour passer les nuits. Pour autant, et jusqu'à présent ça a été le cas, par exemple, bon, effectivement, il y a des périodes de pluie et d'orage, comme partout à Avignon, et des fois ça pose beaucoup de problèmes. Mais on va dire que beaucoup de gens peuvent être là-bas, tout le monde est sur les bords, alignés, là, et puis tout se passe finalement en bonne harmonie, bon, il y a peut-être des petites frictions quand même, mais les gens sont vraiment là, avec le désir d'y prendre du plaisir. Des fois ils n'ont pas beaucoup d'argent, ça se sent bien, ça se voit là où ils mangent, quand ils mangent, mais c'est comme ça, cet ensemble des berges du Rhône occupées. On dort dans les voitures aussi, les campings sont là, insuffisants très probablement. On peut comme ça donc se rendre compte qu'on est dans un lieu. On trouvera à cette période d'autres lieux festivaliers où cette image à l'échelle beaucoup moins importante est reproduite. Avignon, c'est quand même très particulier. Et surtout, des fois on dit, ah oui, mais il y a des grands festivals dans la région, il y a le festival d'Orange, il y a le festival d'Aix-en-Provence, mais là ça n'a rien à voir, parce que ce sont des festivals de musique, ce qui est bien. Effectivement, il n'y a pas de festival, il n'y a pas vraiment la musique n'est pas très très présente, et encore qu'elle commence de l'être, ainsi que la danse par exemple, dans les spectacles d'Avignon, aussi bien dans le Hin que dans le Off, mais ces lieux d'Orange et d'Aix-en-Provence, eh bien, ça ne peut pas être le même public, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Et c'est des prix souvent multipliés par 5 quand c'est pas plus. Donc on ne dira pas que mettre sur la même échelle un certain nombre de festivals avec les festivals d'Avignon. Je voulais dire un dernier mot en disant que, par exemple, Pour les plus anciens qui se souviennent qu'il y avait des grandes discussions dans le verger Urbain 5 à Avignon, et que finalement, je ne sais plus trop, pour des raisons de sécurité, il n'a pas été fermé, mais il ne s'y passait plus rien. Bon, sauf ça permettait à des gens d'y faire, et ça existe aussi en Avignon, faire ce qu'on appelle le off du off, c'est-à-dire on s'installe et puis des fois on a beaucoup de monde autour de soi pour regarder, écouter, voir chanter avec les gens. Et que donc ce verger urbain saint va être rendu au festival l'année prochaine. Alors là, on a trouvé un mécène, et le mécène, eh bien, c'est l'Occitane, ce fabricant d'huile, ces huiles essentielles et puis d'autres produits. L'Occitane va financer la restauration du verger urbain. C'est pour montrer que, bon, c'est ce genre de dérives qui se multiplient, mais sous un angle, on dit toujours, oui, mais c'est quand même des gens qui aiment la culture, qui ont une conception de la société un petit peu différente, et bien bon, c'est pas. Et je voudrais rendre un dernier mot pour les gens qui là, j'ai pas eu l'occasion de les voir, et il aurait fallu que j'aille peut-être du côté des Champfleury, Montclar et puis d'autres lieux au sud, surtout d'Avignon, des gens qui dans les comités de lutte ont entrepris une bataille contre le projet de faire une grande liaison est-ouest, une liaison rapide est-ouest qui couperait par le sud, éviterait de passer par exemple par le contournement d'Avignon, mais qui naturellement viendrait prendre des terrains qui sont autour d'Avignon. Tous les terrains sont des terrains consacrés à la culture, pas l'élevage, mais aux primeurs, aux légumes et tout ça, les fruits, tout ça. Donc il y a une bataille contre ce projet un peu, on dira pas pharaonique, mais à l'heure où il y a les batailles, par exemple, qui se livrent sur Notre-Dame-des-Landes, eh bien, ça fait partie de un peu cette espèce de ça fait boule de neige. On dit qu'il y a des projets un peu partout qui sont inutiles de mettre en route, et le projet Léo, liaison est-ouest à Avignon, eh bien, est condamné par beaucoup de gens là-bas. Et d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé ici à Radio Canu, et on en parlera encore dans d'autres émissions. Je crois qu'on va terminer avec peut-être quelque chose qui est vraiment la vraie balade dans Avignon.
Oui, ça ferait une petite note nostalgique, c'est très bien, pour juste avant d'aller dormir. Graines d'Avignon, c'est Théophile, alias Antonio Tamayo, qui a écrit ce texte, mis en musique par Guy-Marie Touraine, alias Tonio Gemem, qui l'interprète. Bonsoir.
L'orgue de barbarie, place de l'horloge, l'enfant gitan le long des terrasses, vent sa lavande, te fait la manche, juillet en Avignon, ce festival, écoute donc les comédiens, les saltimbanques, les poètes, ce sont souvent des gens honnêtes qui te font de la vie comme une fête. Place des Corsins, Carmen danse pour Don Diego, Blanche Neige, les sept nains, se roulent un béco, vachement rétro, Gavroche éternel, galopin, Félanico, bourgeois au flic, Charlie arpente sur sa guitare, le macadam de la sociale. Et fesses fraîches, le Rhône passe en père peinard, la rue de l'Arrêt, au teinturier, ce n'est qu'affiche, bout de papier, rire de touristes et de moustiques, du chien. chiens qui fument au chapeau rouge, des femmes ciel, des femmes abeilles et des converses hautement célestes. De la déveine, zonard d'un soir, cigale d'un été, au lire un peu de la bartelasse qui rimaillait sans orthographe entre deux crampes de Mistral. Ne tombe pas des branches, mais en été, place des Carmes.